Eh bien, Henri Bardon, cette vieille mentalité, nous la connaissons bien, mais les manuels nous en ont donné une image un peu caricaturale. Et je crois qu'avant d'apprécier les changements survenus sous l'Empire, il serait bon de préciser un peu la nature de ce réalisme qui a été, nous dit-on habituellement, un des traits dominants de la mentalité romaine.
Il est exact de dire et d'affirmer que l'apport des Romains est d'avoir montré que le réel est ce qui existe et que l'homme a une prise sur cette réalité-là. Cette attitude, elle est nette depuis le début de la République jusqu'à la fin de l'Empire. C'est une des constantes du tempérament du génie latin. Et si on songe à ce qu'ils ont produit au point de vue artistique, on ne peut qu'être sensible à leur tendance au naturalisme, je dirais plutôt naturalisme que réalisme, qui explique qu'ils se soient en quelque sorte spécialisés dans le portrait, dans le relief historique à des fins politiques ou narratives, dans la peinture triomphale. Et en littérature, ils ont un goût pour la satire, pour l'éloquence, pour la philosophie morale, pour tout ce qui les met au contact direct de l'homme, de la réalité de l'homme en tant que corps, de la réalité de l'homme en tant qu'âme et en tant qu'esprit. Et pour en revenir à l'art, ils ne font pas de plus grand compliment à une sculpture, par exemple, que de dire d'elle qu'elle spirate, oui, qu'elle respire, qu'elle vit. Et ceci vaut aussi bien pour les immenses sculptures, dont certaines sont assez laides, je pense au colosse de Barletta, dont d'autres sont admirables, je pense au Marcorel de la place du Capitole, que pour de petits bronzes, lorsque ceux-ci naturellement sont de qualité et ne ressortissent pas à la fabrication en grande série.
Oui, il y a des anecdotes célèbres à cet égard apportées par Pline, je crois, ce tableau dont on peut dire qu'il se confond avec la réalité.
Exactement, et qui est picoré, paraît-il, par les oiseaux, parce qu'il y a des grains qui sont représentés dessus, etc. C'est juste. Cette tendance, donc, elle est constante, et ça ne paraît pas nécessaire d'insister beaucoup là-dessus. Mais enfin, elle n'est pas unique. Je crois d'ailleurs que l'on a peut-être un peu tort en ce moment d'insister trop sur un certain idéalisme, au moins chez des théoriciens de l'art, de l'Antiquité. Mais il y a cette tendance, pour Cicéron, pas toujours, mais quelquefois, pour Sénèque, assez souvent, l'œuvre d'art est le reflet de l'idée de l'objet. C'est évidemment platonicien, si vous voulez, et c'est très opposé à la conception générale de l'époque. C'est pourquoi il ne convient pas d'attribuer trop d'importance à ces affirmations qui sont des affirmations que je dirais de culture et qui ne répondent pas à l'essentiel du tempérament latin. Mais enfin, c'est Pline l'Ancien, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, qui nous dit, je crois, qu'un des tableaux les plus célèbres, peut-être le plus célèbre, des collections de Domitien sur le Palatin, était un tableau grec. Un jour, raconte Pline l'Ancien, Appel reçut la visite de Protogène, ou plus exactement, le peintre Protogène arriva dans l'atelier d'Appel alors que celui-ci était absent. Et il prit, nous dirions, un pinceau et traça une ligne d'une telle finesse qu'elle était évidemment stupéfiante. Il dit, disant à la femme de ménage, « Tu diras à Appel de deviner le nom de son visiteur. » Et Appel, arrivant, dit que seul Protogène était capable d'en faire autant. Puis il traça une ligne encore plus fine, encore plus mince, et lorsque Protogène, Appel s'étant retiré de nouveau, arriva, il reconnut son maître. Et Appel traça une troisième ligne qui, paraît-il, recoupait les deux autres, était d'une sinuosité et d'une finesse absolument stupéfiante. Donc, s'il faut en croire Pline l'Ancien, vous savez, Pline l'Ancien raconte beaucoup d'anecdotes qui ne sont pas de première qualité au point de vue de l'authenticité, ce tableau était d'une célébrité étonnante, nous dirions c'était un tableau abstrait, et prouverait que les Romains s'intéressaient aussi à cette forme d'art. Eh bien, il ne faut pas exagérer, c'était certainement exceptionnel, et je ne suis pas sûr que Pline l'Ancien ait été tellement proche de la vérité. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que si réelle que soit l'attitude réaliste ou naturaliste des Romains, elle n'exclut pas chez eux un sens indiscutable du mystère des choses. Le réalisme, voyez-vous, ce sont les choses prises dans leur contour aigu. les Latins avaient un adjectif pour désigner cela, l'adjectif acer, c'est-à-dire arête vive. Bon. Eh bien, le mystère est quand même chez eux assez continu, et ça me paraît un aspect négligé d'un tempérament collectif qui s'est spécialement développé sous l'Empire, peut-être parce que les drames de l'heure étaient soit latents, soit d'une acuité étonnante. Ainsi, une chose sur laquelle il faut, je crois, attirer l'attention, lorsque le personnage d'Énée, dans l'Énéide de Virgile, quitte Troie qui est en flamme déjà, il se retourne pour jeter un dernier coup d'œil sur sa ville. Et alors, dit Virgile, les grandes faces terribles des puissances divines conjurées contre Troie lui apparaissent. Ah, cette espèce de grande vision, presque surréaliste, est absolument étonnante. Et chez un poète qui n'a pas l'ampleur, il s'en faut, de Virgile, chez Stas, lorsque Apollon et Diane se croisent dans le ciel, ça arrive souvent dans l'Antiquité, eh bien, à ce moment-là, le ciel se colore d'une intensité rougeoyante. Et cette vision de la mythologie et ce transfert de la mythologie dans le domaine d'un rêve qui est en même temps une perception, ça c'est assez étonnant, et c'est peut-être moins étonnant qu'il ne semble, si on réfléchit que la Voie lactée, pour les Romains, était une fissure dans la calotte du ciel, fissure à travers laquelle on apercevait les lueurs des intermondes. Par conséquent, vous avez des générations qui vivent, je ne dis pas sous une menace, ils en sont certainement pas tellement conscients, mais quand même, pour qui la normale est à certains égards le quotidien.
Oui, ce sont des manifestations assez peu connues de ce sens du mystère.
Oui.
Il y en a d'autres qui le sont plus. Il y a des écrivains comme Suétone, par exemple, chez qui on trouve une ironie assez mystérieuse dans son principe.
Oui, bien sûr. Vous parlez de Suétone, oui. Et pour donner peut-être plus de précision à ce que nous disons, il y a un texte sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est le passage de la vie de Néron, où il est question de la mort de Néron. Néron, accompagné de quelques affranchis, s'engage sur la Via Nomentana. Il fait nuit, et la nuit est traversée d'éclairs. Et puis, un cadavre abandonné sur la Via semble un mauvais présage. Le cheval de Néron se cabre. Il continue sa route, et il est croisé par un soldat qui salue ses ombres qui passent. Est-ce que c'est un présage de bon augure? On ne sait pas, mystère. Bon. Puis Néron s'arrête dans une carrière de sable près de la villa de Pharaon. Il a soif, il veut boire, et on lui donne une eau trouble. Et il dit, voilà bien la décocta Néronis. La décocta Néronis était une boisson qu'au temps de sa splendeur, il avait inventée et qui était célèbre. Nous avons donc affaire à un Néron qui est pitoyable, chez qui il y a de la lassitude, du dégoût, un désir tout animal de survivre. Et il prononce à ce moment-là ces paroles extraordinaires. « Qualis artifex pereo ?» Être un tel artiste et mourir. Quelle est la part de cabotinage? Quelle est la part de certitude, de sincérité? Nous n'en savons strictement rien. Et il faut dire que Suétone laisse tout cela et très justement dans le vague. Et puis, au lointain, Néron entend le galop d'un cheval. Il prend son poignard et Pharaon l'aide à mourir. Un citoyen entre, c'est un centurion, un militaire, il fait semblant de venir au secours de Néron qui n'a pas absolument encore perdu conscience et qui dit dans un dernier souffle, voilà bien la fidélité. Est-ce que Néron est dupe? Est-ce qu'il ironise? Il y a donc dans ce texte la sensation presque tangible du mystère de la vie, du mystère des vivants, de la confusion de leurs sentiments, du fait que rien n'est clair dans l'âme. Et c'est d'autant plus étonnant que cette nation romaine est une nation de psychologues. Toute l'œuvre historique de Tacite vaut, surtout par l'effort de psychologie, nous pouvons ne pas être d'accord, ça n'est pas le problème. Prenons même Suétone. Qu'est-ce que raconte Suétone ? Suétone raconte des anecdotes qui éclairent des individus. Eh bien là, dans ce cas précis, et dans d'autres d'ailleurs, ils laissent aux choses leur vague, parce que leur vague, c'est la vérité. Voyez-vous, je parlais tout à l'heure de Tacite. Lorsque Tacite raconte la veillée de la bataille de Bédriaque, Othon, n'est-ce pas, va livrer cette bataille où il joue, comme nous dirions, en dernier atout, et il hésite sur la tactique à entreprendre. Cette tactique, ses officiers, ses généraux, ne sont pas tous du même avis. Et Othon choisit la plus mauvaise, indiscutablement, celle qui va le mener d'abord à l'échec, à la défaite, si vous voulez, et ensuite au suicide. Pourquoi choisit-il celle-là, lui qui est un homme intelligent, capable? Mystère. Tacite ne le dit pas, mais il nous laisse entendre que l'homme est guidé par des puissances qui lui échappent. Et nous retrouvons ainsi, sur le plan de la psychologie, cette vieille idée romaine, alors si fréquente depuis les temps archaïques, du fatum, de la destinée, qui conditionne les êtres, même les plus lucides, même ceux qui croient justement la conditionner eux.
Je crois que Néron a été, on peut dire, à cristalliser cette mentalité nouvelle à certains égards, et on lui prête dans l'histoire de l'Empire un rôle artistique considérable. On parle d'un baroque néronien.
Oui, je crois que c'est parfaitement exact. Il y en a au moins quelques témoignages qui sont évidents, ne serait-ce que la structure de la maison dorée, et avant la maison dorée, la Domus Transitoria, qui l'une et l'autre étaient au moins, dans leur plus grande partie, tout à fait en contradiction avec les normes de l'architecture traditionnelle. Cette Domus Transitoria était au fond une série de kiosques perdus dans des bosquets plus ou moins naturels, en opposition complète avec la maison traditionnelle des Césars qui se trouvait à un angle du Palatin, ce qu'on appelait la Domus Tiberiana, une rénovation absolument complète. Et on trouve cela évidemment aussi dans l'œuvre même de Néron. Nous parlions des empereurs et de leur littérature. Nous avons quelques vers de Néron. Il semble bien que ce soit des vers authentiques, enfin de lui, véritablement, où il y a un goût pour la ligne courbe, etc., pour ce que Eugenio d'Ors, dans un ouvrage déjà vieilli, aurait appelé justement le baroque, tel qu'au moins il le définissait. De toute manière, il y a un baroque néronien qui s'exprime également dans l'art décoratif. Vous voyez la manière dont le palais de Néron, la maison dorée, qui nous a été conservée peut-être grâce au désastre qu'elle a subi à l'époque des Flaviens, la manière dont ce palais est décoré avec des êtres fantasques, ce qu'on appelle les grotesques, et qui ont eu une telle influence sur l'art décoratif et pas seulement de la Renaissance.
Et c'est, la maison dorée, c'est une reconstitution du monde.
Oh, on l'a dit, vous savez, ça n'est pas certain du tout. On a estimé si à quelques reprises, parce qu'il y a une des pièces qui aurait une coupole, n'est-ce pas, une coupole qui, paraît-il, aurait tourné de manière constante, par conséquent, image de la voûte céleste, et de là avoir une influence des palais orientaux. Mais c'est plutôt de l'ordre du rêve que de l'ordre de la réalité. Une pièce de la maison dorée a tout autour d'elle des chambres qui se correspondent. De là y voir un microcosme, ça me paraît un peu facile, et en tout cas, il n'y a aucun texte qui permette d'affirmer cela. Non. Non. Je crois que le baroquisme néronien, il est en littérature, il est dans les arts, de là y voir, y chercher une conception générale du monde et une nouvelle prise sur le monde, je crois qu'il faut être extrêmement prudent.
Enfin, en général, de Néron, un artiste manqué.
Oui, et lui-même d'ailleurs se donnait comme tel, indiscutablement, pour avoir chanté, comme il le fit, déclamé un de ses poèmes alors que Rome brûlait, mais c'est évident. Et lui-même, il tenait beaucoup à ce que sa voix fût appréciée. Il avait une claque d'ailleurs qui était dressée pour cela, mais qui ne cherchait pas à créer l'enthousiasme, mais plutôt à le souligner, car la plèbe romaine n'était pas tellement facile. Elle ne s'était pas gênée pour siffler Caligula lorsqu'il avait voulu chanter devant elle. Bah, si Néron a eu tant de succès, c'est que sa voix était de qualité, et des gens le disent. D'ailleurs, nous avons des textes qui sont très affirmatifs à cet égard. Faites attention que Néron est à tous égards un grand calomnier. Hein? Nous avons ainsi deux textes sur son activité littéraire qui sont en parfaite contradiction. Pour Tacite, il se contentait de recopier ou d'utiliser ce que d'autres que lui avaient écrit. Et Suétone, qui a été archiviste du palais et qui par conséquent a vu les documents, affirme avoir eu entre les mains des tablettes écrites par Néron avec des ratures, des corrections qui prouvent que Néron, justement, était un créateur. Bon ou mauvais, ça n'est pas le problème. Mais un créateur, indiscutablement, et il ne s'est pas contenté de recopier les inventions des autres.